Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec les peaux de vache de la critique. J'ai nommé Armel Elio du Figaro, Gilles Costaz de Politis, Jacques Nerson de l'Obs et enfin Fabienne Pascaud de Télérama que je suis ravi d'accueillir. Bienvenue au club, Fabienne, d'accueillir au Masque et la Plume. Fabienne, critique éminente et depuis longtemps, mais qui fait ses débuts, donc.
Et oui, je suis très émue.
Dans l'arène, dans l'arène du Masque et la Plume. On parle ce soir des damnés de Vania, des femmes savantes, du chat, de Croque-Monsieur et de Peau de Vache, et vous dire si le choix est éclectique. Dans le courrier de la saison, et non pas de la semaine, puisque le masque n'a pas été théâtral depuis Avignon. Nicole Gros de Paris est mécontente des commentaires, des critiques du masque à propos de la prétendue mouette de Tchekhov montée par Thomas Ostermeyer à l'Odéon. C'était en juin dernier et c'est une véritable trahison. Ce metteur en scène que vous traitez avec une indulgence due sans doute à sa notoriété révèle une totale ignorance de l'auteur, mais il y a plus grave, c'est la prétention et l'arrogance de son entreprise, à une traduction d'une platitude qui flirte avec la vulgarité. Il ajoute un salmigondi de réflexion sur l'actualité et cerise sur la gâteau, supprime deux personnages. Monsieur Ostermeyer devrait s'intéresser aux mises en scène des Russes qui font preuve d'une réelle humilité vis-à-vis de la splendeur des pièces de Tchekhov.
Mais on l'avait un peu dit, hein.
Oui, on
Chacun
l'avait.
Chacun avait fait remarquer l'absence des personnages. Moi, j'avais dit qu'il avait l'air de pas savoir que Tchekhov était médecin.
Eh ben, Madame Gros ne vous a pas entendu.
Oui, elle nous a pas écouté
Denis
bien.
Denis Morino de Nantes salue Jacques Nerson, qui a eu le courage, lors de l'émission du Masque d'Avignon, de constater une réalité difficilement contestable. Donc, pour Monsieur Morino et pour Monsieur Nerson. Oui, le théâtre subventionné en général et le festival IN d'Avignon en particulier ne profitent qu'à quelques milliers de cercles parisiens. Oui, le Hof d'Avignon est le seul espace réellement populaire et ouvert au plus grand nombre. J'y suis content, Jacques. Oui, il est injuste et incompréhensible que le festival officiel regroupe la quasi-totalité des aides publiques lorsque 1400 troupes dans le cadre du Hof tente de survivre sans la moindre aide publique. Toujours à propos d'Avignon, Georges Henriot, il nous remercie, lui, tiens. Cher Masque, j'ai bien suivi tes conseils et suis sorti emballé, ça on le comprend, de ma folle otarie de Pierre Note et de Griselidis Réal, joué formidablement par notre chère Coralie Zaonero. Et puis j'ai assisté au damné, c'est sublime. Juste étonné qu'aucun de vos critiques n'ait fait le rapprochement entre les convulsions des acteurs dans les cercueils et cette scène épouvantable, décrite dans leur livre par Jonathan Little ou Daniel Mendelsohn, de personnes enterrées vivantes par les nazis. Enfin, et en revanche, une grosse colère sur les mêmes damnés de M. Germain de Saint-Jean-de-Bournay dans l'Isère et qui nous dit « Je suis sidéré que des acteurs acceptent de jouer ça, qu'il se trouve des critiques pour en parler ». Merci pour nous. Ce qu'il y a de réussi dans le film, c'est qu'on ressent cette pesanteur, ce confinement mortifère qui tient tous les personnages entre eux et qui va s'épaississant au fil du récit. Ici, rien. Un scénario, nous dit Monsieur Germain, c'est un outil utile à tous les corps de métier qui travaillent sur un film. Après le montage, sa destinée normale, c'est la poubelle. Ça aurait évité aux Français de commettre un machin aussi ringard. Comme je me plais à le répéter depuis plus de 20 ans, il n'y a plus de cinéma dans les films et je vois donc qu'il n'y a plus de théâtre dans les pièces. Voilà, c'est expédié. Enfin, on va quand même en parler ce soir. On va même commencer par ces damnés d'après le scénario du film de Visconti qui a été donc l'événement du Festival d'Avignon où le spectacle s'est donné dans la cour d'honneur et qui arrive à la Comédie Française où il se donne jusqu'au 13 janvier. Donc vous avez le temps, je précise, qu'on l'a tous vu ici. Mais à ciel ouvert, pas encore sur la scène de la salle Richelieu, à moins que l'un de vous ait pu se glisser dans la salle.
Ça n'a pas commencé encore ce soir.
Dans une mise en scène du flamand Ivo von Hove, toute la troupe du Français se donne à fond, c'est le moins qu'on puisse dire. Denis Podalydès, membre des SA, qui ne cache rien pour Armel de son intimité. Guillaume Gallienne, elle a un sourire.
Oui, le sourire.
Guillaume Gallienne, elle a le poivre. Très, très Lady Macbeth, Éric Genovese. Alexandre Pavlov, Loïc Corbery, Adeline Dermy, Claude Mathieu et Sylvia Berger qui vont être Richelieu en alternance. Clément Hervieux-Léger, Jennifer Decker, Didier Sandre, en éphémère patriarche. Et enfin, Christophe Montenez dans le rôle du très pervers Martin. Pour cette célébration du mal, Vanhove a imaginé une scène bordée de tables de maquillage côté jardin et puis de cercueils alignés côté cour avec au centre un grand écran où défilent des images d'archives et surtout les gros plans des comédiens qui sont filmés en direct et en caméra portée. L'histoire, vous la connaissez maintenant, j'espère. C'est celle de l'effrayante famille Essenbeck qui règne en 33 sur la sidérurgie et qui s'allie par intérêt au pouvoir nazi et dont la pièce va décliner, comme le film, dans un flot ininterrompu de sang qu'on voit d'ailleurs sur la scène, qu'on voyait à Avignon, les crimes, les pratiques sexuelles, les orgies, jusqu'à un final qu'on ne va pas raconter, dont le spectateur est vraiment la cible au sens propre. Moi, je peux vous dire que 2 mois après, je m'en suis toujours remis d'avoir été la cible, d'avoir reçu ce que j'ai reçu. Bon, c'est un choix du metteur en scène. Il faut dire en plus que, si on doit aller jusqu'au bout de la vérité historique, on a vu cette pièce à Avignon, dans la cour d'honneur, quelques soirs avant la tragédie de Nice, ce qui rendait rétrospectivement la fin des damnés encore plus dure à supporter. Mais voilà, je parlais pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens Jacques, avec encore une fois cette précaution d'usage, on l'a vu en plein air, maintenant c'est dans la salle Richelieu.
Je ne pense pas que ça changera grand-chose, mais je suis complètement divisé. C'est-à-dire que d'un côté, j'admire énormément le travail de la mise en scène. Je trouve que toutes les solutions mises en œuvre par Ivo Vanhove pour raconter cette histoire sont ingénieuses, intelligentes, originales, notamment la vidéo. Je trouve ça remarquable ce qui a été fait. Je trouve ça très beau. Par ailleurs, je conserve les mêmes réserves sur le scénario lui-même. D'abord...
Là, vous parlez du film.
Oui, mais là, sur le texte.
Non, sur le texte.
C'est-à-dire
même.
Qu'on se retrouve avec un texte que je trouve, personnellement, d'une très grande pauvreté, ce qui est normal, d'ailleurs, puisque un cinéaste, il écrit avant tout pour faire des images, et les mots sont au service de l'image. Ce sont des mots qui ne contiennent aucune poésie, aucun réel pouvoir. Et donc, c'est aussi pauvre qu'une série télévisée. Et puis, la deuxième réserve que je fais, elle concerne la portée politique du spectacle. Il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer Ivo Vanhove. Il m'a expliqué que pour lui, il était essentiel de raconter à nouveau l'histoire des damnés à cause des populismes et des extrémismes qui sont en train de gagner l'Europe.
Il parlait plus des extrémismes... djihadistes que des...
Pas seulement.
Enfin, dans les interviews que j'ai lues...
Je crois que c'était l'extrême, toutes les formes d'extrémisme. Et je trouve que cette histoire, qui est une histoire de famille où on se déchire pour prendre la tête de l'entreprise, je trouve pas qu'elle raconte tellement de choses sur le monde d'aujourd'hui et qu'elle soit tellement porteuse de leçons politiques. Ça me
Fabienne.
Paraît pas absolument
moi,
passionnant.
Je suis pas du tout d'accord avec Jacques. D'abord, moi,
ça
je
commence
trouve...
bien. Bonne entrée au masque et la plume.
Que le fait d'adapter un scénario, Ivo Vanhove, que j'ai moi-même aussi interviewé, dit que il adapte beaucoup de scénarios. Il a adapté Bergman, Cazavetes, Pasolini, parce que justement, les cinéastes souvent abordent la réalité d'une autre façon que les dramaturges. Hein. Il a aussi beaucoup monté Shakespeare, donc il sait de quoi il parle. Et c'est vrai que les trous qu'il peut y avoir dans le scénario une fois porté au théâtre, ça permet justement à la mise en scène de s'exercer. Et la mise en scène, elle est quand même d'une habileté formidable.
Mais en quoi ça concerne les gens d'aujourd'hui ? Enfin, on voit encore une fois...
Alors, deuxième point pour lequel je ne suis pas d'accord... Je sais qu'il faut peut-être pas raconter la fin du spectacle, mais comme vous, Jérôme, j'ai été traumatisée par cette fin qui est à la fois biblique, archaïque, et puis on nous tire dessus. Et c'est vrai.
Il fallait pas le raconter, mais je vois que
Jérôme l'avait un peu fait.
Je voulais réserver ce bonheur aux spectateurs de la salle Richelieu.
Mais justement, ça veut dire que quand on est dans un état de déliquescence affective, morale, mentale, comme l'est l'héritier de cette famille Essenbeck, on peut basculer dans l'épouvante. Et donc, ce qui lui arrive à eux, ce qui est arrivé au moment du nazisme en 1933, ça peut effectivement nous arriver aujourd'hui.
Martin Eisenbeck n'est pas un personnage extrêmement répandu dans la société actuelle, ni par ses mœurs,
ni par...
Je pense qu'elle ne s'applique pas tellement au monde actuel, c'est tout.
On peut la trouver
ici,
encore une
paumés,
fois.
Des jeunes paumés, mal aimés, abandonnés par leurs parents, qui ne savent plus
quoi
faire.
Qui basculent dans la violence, Jacques, malheureusement, on le voit tous les jours.
Oui, dans la violence, mais pas, on ne fait pas partie tout à fait du même monde, quand même. Je vous assure
que... Mais ça, le monde n'a rien à voir maintenant, il y a des
Ça se passe chez des milliardaires qui se disputent encore une fois le contrôle des aciéries. C'est pas tout à fait le problème de tout le monde aujourd'hui.
C'est pas que des pauvres qui versent dans le terrorisme.
Pas, peut-être
ça
vous,
serait
Fabienne,
trop simple.
Mais pas moi. Enfin, en tout cas,
Donc vous, Fabienne, vous l'avez aimé le spectacle.
Moi, je l'ai aimé, oui. J'ai trouvé peut-être, en y réfléchissant, je me suis dit que je m'étais peut-être fait avoir. Parce que c'est vrai qu'il manipule la vidéo, comme l'a dit Jacques, à merveille, la musique à merveille, les acteurs, il sait les diriger. Ça faisait 23 ans qu'on n'avait pas vu la Comédie française dans la Cour d'honneur, donc on était tout émus. La voix d'Hitler qui retentit dans le noir, c'est un moment de terreur.
Les scènes des cadavres qui bougent dans les cercueils.
Oui, c'est très fort.
C'est presque insoutenable. Enfin, c'est fort, mais je trouve ça.
Et le miroir qui tombe sur la foule pour montrer qu'on est tous responsables, qu'on fait partie de la majorité silencieuse et qu'on collabore, qu'on pactise avec le mal, tout ça, c'est éblouissant.
Je me permets d'ajouter une chose. Pardon,
Armel et Gilles.
Je voulais juste ajouter une chose, c'est qu'il va y avoir un autre scénario de cinéma cette année à la Comédie française. C'est La Règle du jeu qui va jouer en février. Donc, à nouveau, un film va donner un spectacle.
Mais moi violent. dans mon souvenir, Armelita.
J'écoute mes amis avec beaucoup d'intérêt parce que je trouve qu'ils ont tous les deux complètement raison. J'ai hâte, personnellement, de revoir ce spectacle à l'intérieur, parce que, alors, il n'y aura plus les quatre saxophonistes qui étaient si émouvants.
Oui, qui rythmaient un peu le spectacle et qui apportaient un peu de douceur.
Et moi, il se trouve qu'à Avignon, je me suis offert le luxe de revoir le spectacle, et le hasard a fait que j'y étais le 14 juillet. Et le 14 juillet, on était donc 2000 dans cette salle, on ne savait pas ce qui s'était passé, et quand on est sorti de là, après ces scènes terribles de la fin du spectacle, tout d'un coup le régisseur a dit « La préfecture demande à ce que vous ne restiez pas sur la place du Palais à cause de l'attentat de Nice ». Et donc on a rallumé nos portables, j'en ai encore la chair de poule, et on a vu... On a entendu, on a compris, il y avait 77 morts à ce moment-là, et tout d'un coup, les images d'Ivo Vanov, elles ont pris une force...
Donc vous êtes passé directement, je vous résume...
De la dernière scène
De la scène, puisque Fabienne nous l'a révélé, où on se fait,
qui venait de se
on
passer
se fait
à
mitrailler
nice.
À la Kalachnikov, au drame de Nice.
Et oui, et Nice, c'était, on n'arrivait pas à le croire, quoi. C'était un sentiment d'irréalité incroyable, et en même temps, ça donnait du sens à ce tout ce qu'on venait de voir, et avec toutes les réserves qu'on pouvait avoir sur cette violence. Moi, curieusement, c'est vrai que les images dans les cercueils m'avaient mise d'une très, 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 très mal à l'aise la première fois.
D'autant que c'est adulte et enfant.
Voilà. Et que le revoir, finalement, on s'attache à d'autres choses, on arrive à voir autre chose, mais il nous capture, quoi, quand même. Il nous oblige à regarder de l'insoutenable. Mais bon, c'est tellement bien joué en même temps. Mais c'est vrai que le texte n'est pas à l'auteur du Macbeth de Shakespeare dont se seraient inspirés les scénaristes.
Puis pensez au Von Hoff d'avant, qui était ce vue du pont que moi j'avais trouvé assez magnifique. Gilles.
Oui, moi je trouve que c'est un niveau Von Hoff beaucoup moins réussi que les précédents, qu'il y a des choses qui sont utilisées de façon un peu artificielle. Je trouve que l'image vidéo est dévorante, qu'elle empêche de voir le théâtre. Et puis alors, moi j'étais parti des gens qui n'avaient pas tellement aimé ça, et puis j'ai ouvert le 15 juillet, le journal du dimanche, où il y avait un article de Christine Angot.
Ah oui, elle s'en est pris très bien la main.
D'une violence extrême.
Au moment, on n'y comprenait rien, surtout.
Moi, j'ai trouvé cet article formidable. Parce que je me sentais entièrement d'accord avec ce papier qui nous traitait de bobos. Elle avait raison. On était des gens qui aimaient une violence artificielle alors que la violence réelle avait lieu à quelques kilomètres de là.
On fait que ça, on a l'envie.
Et ça, c'est devenu les miens. Je trouve que, j'espère qu'il a repensé sa mise en scène par rapport à ce qui s'est passé, parce qu'il y a des choses qui paraissent maintenant faciles, gratuites et dangereuses dans sa mise en scène.
Mais il la dénonce, cette violence, dans sa mise en scène.
Non, mais c'est vrai que Gilles rappelle cette tribune de Christine Angot qui était sous le double choc à la fois de la pièce et à la fois des événements.
Et du passage de François Hollande qui est tombé à ce moment-là.
Mais je trouve que ça n'a tellement rien à voir entre les djihadistes et le nazisme, c'est pas la même chose.
Souvenez-vous de cette tribu,
c'est vraiment un amalgame.
On n'y comprenait rien, on ne savait pas ce qu'elle voulait dire.
À la fin de ce spectacle, quand même, il est quand même un petit peu gênant.
Mais enfin, moi j'ai vu des spectacles de Roger Planchon où on nous tirait au canon dessus.
Mais oui, mais justement, c'est vieux.
Même d'un spectateur qui avait dit oh là là, il va tuer tous ceux, les rares qui sont restés.
Mais tout ça, c'est vieillot, c'est fini.
Les damnés, encore une fois, nous vous parlions de la version que nous avons vue à Avignon. Arrive donc à la Comédie Française et vous pouvez aller vous faire tirer dessus jusqu'au 13 janvier. Et maintenant, les femmes savantes de Molière montées au théâtre de la Porte-Saint-Martin par l'ancienne doyenne du français Catherine Hiegel, qu'il avait mise en scène il y a 30 ans. Salle Richelieu. Et elle a eu l'idée, il faut dire originale, de reconstituer le couple Bakri-Jaoui, qui n'était pas monté sur scène depuis un air de famille. Et j'ai regardé mes notes, c'était en 1992, puisqu'elle donne à Agnès Jaoui le rôle de Philaminte et à Jean-Pierre Bacri, celui de Chrysal. Ils sont notamment entourés dans un décor très soigné, très, pour le coup, très comédie française. Oui. D'Evelyne Buell, c'est Bélise, de Philippe Duquesne, c'est Trissotin, de Julie Marie Parmentier, que j'aime beaucoup, qui a passé très peu de temps d'ailleurs, elle, au français, deux ans, je crois, qui était une très belle Camille de Badine. Et là, qui joue Henriette, Catherine Ferrand, Chloé Berthier, Benjamin Youngers, et on rappelle vite que Trissotin règne sur une famille dont il a flairé la fortune, que dis-je, sur un gynécée, la mère, Philaminte, la belle-sœur Bélise, et une de ses filles armandes qui toutes trois se pâment devant les vers et la prétendue philosophie de Monsieur Trissotin, ce qui fait le désespoir de Chrysal. Bref, le classique des classiques. C'est un peu le problème de ce genre de distribution, c'est qu'on a Dieu que pour Bakri-Jaoui. L'idée bonne, mauvaise, Armelle?
C'est très bien, c'est du très bon travail, et Bakri est remarquable. Oui. Jean-Pierre Bakri, il a ça qu'il est moderne. Il joue, il dit très bien la langue de Molière, les alexandrins, mais d'abord il est aidé par les costumes de Renato Bianchi, un autre grand de la comédie française, et Il est moins déprimant
que d'habitude.
Ah oui, complètement. Et puis, il a ça, en fait.
Je ne sais pas
comment l'expliquer. J'entendais rire Fabienne à quelques fauteuils de
mais
moi.
Mais il arrive à Fabienne
et
de rire.
Et c'est vrai, hein. tout le temps. Tout le temps, elle rit. Mais je vous assure, il a ça que j'ai trouvé absolument formidable. Pour le reste, c'est extrêmement classique, extrêmement bien joué. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont d'ailleurs passés par la Comédie française. Ferrand, Roussillon. Voilà, alors peut-être que ça décevra les critiques qui cherchent des choses plus élaborées. Mais moi, j'ai passé une très, très, très bonne soirée avec ce petit plus très intéressant. Je vous dis que je n'arrive pas à analyser. Mais il a fait du théâtre depuis. Il a plus fait avec Agnès Jaoui.
Oui, mais
on l'a vu dans du
Schmeck.
Notamment.
Il était remarquable. Enfin,
mais de reconstituer le couple, c'était quand même...
Oui, c'est bien.
Et puis les rôles leur conviennent merveilleusement.
Bonne idée. Fabienne.
Alors moi, dans le couple, je choisis Bakri, parce que je suis d'accord avec Armelle. Je trouve Agnès Jaoui mal à l'aise. Catherine Hiegel a sans doute voulu faire une mise en scène un peu féministe de la pièce qui est l'avant-dernière pièce de Molière. Molière s'est réconcilié avec sa femme, il est plus apaisé, plus heureux. Et c'est ce climat-là, finalement, qu'elle a voulu mettre en scène, Catherine Hiegel. Mais je trouve que ça devient fade et que, du coup, Philaminte, qui est la maîtresse-femme, en perd en autorité, elle est un peu molle. Et du coup, finalement, c'est plus du tout féministe. C'est comme si elle affadissait elle-même la virago magnifique de Molière. Et je suis surtout sidérée, moi, par Bakri. Donc je trouve la mise en scène un peu académique, un peu plate. Mais Bakri, il est tellement prodigieux. D'abord, c'est le rôle qu'avait pris Molière, Chrysal. Et là, on comprend pourquoi. C'est qu'il donne un sens à chaque réplique. Et il arrive, comme le disait très bien Armelle, non seulement à être moderne, mais à suggérer des tas de choses. Par exemple, on a même l'impression, ce à quoi je n'avais jamais pensé, qu'il a une relation avec la servante. Il l'embrasse, la servante. Pourquoi il l'embrasse?
Mais bon, c'est comme une vieille maman. Là.
Oui, non,
oui, mais ça peut être une vieille maîtresse aussi.
Des idées étonnantes, un peu perdues.
C'est ça le plaisir du théâtre.
Ah non, et mais donc, vous avez mauvais esprit.
Mais non, il éveille l'imagination. Mais non, pourquoi mauvais esprit? Mais c'est parce, très bien qu'il couche, sa femme est odieuse. Pourquoi il ne coucherait pas avec la servante?
Mais elle n'est pas odieuse totalement, mais enfin... Mais ça, alors là,
c'est... Eh ben c'est très bien,
vous n'avez jamais couché avec la servante.
Mais ces journaux chrétiens sont incroyables.
Ouvert.
Très ouvert, oui. Non, mais ça, il ne couche pas avec sa servante, c'est pas du tout. C'est pas, tout. C'est pas parce qu'on embrasse qu'il embrasse sur les joues.
Enfin, on y pense. Donc, ce que j'aime dans son jeu...
Fabienne en fait une hypothèse. Pas une affirmation.
Dans son jeu, on devine plein de choses. Il est dans la potentialité du jeu. Et c'est le comble de l'acteur d'ouvrir les portes à l'imaginaire, quand même.
Oui, moi, je l'ai trouvé très bien. Bon, c'est une mise en scène extrêmement classique. On a l'impression d'être à la Comédie Française il y a 30 ans. Mais c'est pas, quand je dis ça, c'est pas du tout un reproche. C'est un spectacle classique. Alors, vous avez dit que la mise en scène était peut-être un peu plate ou pas très élaborée. Je ne suis pas d'accord. Elle est simplement classique. Elle est très respectueuse du texte.
Elle ne prend pas de détails.
Et il y a surtout une distribution très solide parce qu'effectivement, vous parlez de Bakri Djaoui, mais autour, Evelyn Buhl est formidable. Benjamin Junger, Duquesne, merveilleux Trissotin. Ouais. Donc, moi, j'ai passé une très, très bonne soirée et pour une fois qu'on voit un spectacle monter avec une certaine bonne foi, et on peut vraiment, là, emmener des enfants découvrir Molière. Ils auront affaire au texte et à
l'écriture. On préfère les emmener chez Molière que chez Marcel Mitois, par exemple.
C'est exact.
Gilles.
Oui, moi, je suis plutôt de l'avis de Fabienne. Il y a quelque chose qui est un peu compassé. C'est drôle parce que Catherine Hiechel est quelqu'un de très percutante, très violent, et là, il semble qu'elle n'aille pas au bout de sa mise en scène parce que c'est très sage la façon dont ça se déroule. Et donc, effectivement, il y a Bakri qui est merveilleux, il y a Evelyn Buhl qui est merveilleuse, et puis le reste se déroule tranquillement. On sent que on est dans le tempo classique. Alors, on aurait aimé ça il y a 10 ans, mais il y a tellement de gens qui ont monté Molière avec des choses bien plus inattendues.
Si je puis me permettre, je trouve que Porte Saint-Martin, qui n'est pas un théâtre dévolu vraiment à Molière, grâce notamment effectivement à Bakri et à Djaoui, on va faire venir, je pense, un tas de gens qui ne seraient pas allés voir un Molière.
Il y a plein de choses réussies.
Donc, qui n'oseraient pas aller à la Comédie Française.
Ce qui n'est pas réussi, c'est le message que ces femmes sont des féministes, que la pièce de Molière est féministe. Ça ne marche pas. On sait bien que Molière se moque de ces femmes.
Non,
bien sûr. Ça se voit dans le texte, ça se voit dans les autres
enseignes.
C'est le machin maquillage, c'est le chaillou,
c'est
le qui sont bien plus insolites.
Est-ce qu'on peut ajouter une toute petite chose?
Vous allez chaque fois ajouter un mot comme ça.
Oui, j'ai décidé. Oui, décidé.
Mais à la fin, je vous couperai quand même.
Non, 14 personnes sur un plateau privé, dans une salle privée. 14 comédiens sur le plateau, c'est un effort énorme pour une production privée. Je pense qu'il faut quand même la saluer, ça.
Eh bien, c'est donc Les Femmes Savantes, et c'est, je le disais, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Maintenant, sortons du placard un vieux boulevard, Croque-Monsieur. Une pièce de Marcel Mitois. Oui, vous pouvez tousser. Créée il y a 50 ans avec Jacqueline Maillan, qui l'a jouée 1700 fois.
Eh oui, la pauvre.
La Jacqueline, 1700 fois.
Elle était vaillante.
L'histoire, qui ne m'a pas fait rire du tout, mais peut-être que j'étais mal luné, se passe dans le Paris des années 60. La femme d'un richissime péruvien découvre en pleine nuit, non seulement que son mari s'est suicidé, mais aussi qu'elle est ruinée. La ruine, d'ailleurs, expliquant le suicide. Elle est donc veuve pour la 5e fois. Coco Bezos, c'est son nom. C'est chic, hein, Coco Bezos, va travailler à trouver un nouvel époux, évidemment fortuné. Et là, c'est Fanny Ardant qui s'y colle, pour des raisons qui m'échappent encore, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi ça?
Je crois avoir compris.
Mais bon, je ne vous ai pas posé la question. L'avantage de cette pièce, c'est qu'il y a quand même le retour sur scène d'un grand comédien qu'on n'avait pas vu depuis quelque temps, enfin en tout cas moi personnellement, qui est Bernard Ménez, qui joue Anatole Longuevie, qui est une des proies donc de Coco Bezos. Et c'est le réalisateur, plutôt que le cinéaste, Thierry Cliffat, qui signe la mise en scène à la Michaudière, où il lorne d'ailleurs très lourdement du côté de 8 femmes, en créant des intermèdes chantés, dont la musique, peut-être la seule bonne chose, est d'Alex Baupin. C'est vrai que je l'ai mal digéré, ce croque-monsieur, mais peut-être qu'encore une fois, je mets ça sur le compte de la mauvaise humeur, Gilles.
Ah, moi, j'ai beaucoup aimé ce croque-monsieur. Non. Mais si, ça a été un moment très, très agréable.
Ça, c'est pas classique, hein.
Non, parce que c'est y a beaucoup d'humour noir. Il y a du vrai humour noir dans l'écriture de Marcel Mitois. À la différence d'autres auteurs de boulevard, il y a quelque chose de quand même de très corrosif. Alors c'est vrai que c'est assez étrange parce que Fanny Ardant fait exactement le contraire de Jacqueline Maillan. C'est un rôle pour quelqu'un qui n'est pas, séduisant, hein, a priori, et qui séduit les hommes. Et elle, comme elle est extrêmement séduisante, elle séduit les hommes. Donc elle joue à contre-emploi la pièce. Mais elle le fait de façon tellement royale. Elle est tellement superbe sur la scène. Elle a une telle présence qu'elle emporte, je trouve, la pièce dans une direction un peu inattendue. Je trouve que la mise en scène de Thierry Cliffa, c'est ça, a eu la bonne idée de mettre ses chansons de Alex Baupin, qui était quand même un compositeur qui fait des choses ravissantes, qui permettent à la troupe d'être collective vraiment, chacun à sa partition. Non, c'est moi j'ai trouvé ça absolument drôle. Alors que j'avais vu la pièce avec Maillan, qui était très drôle, mais avec tout à fait un autre esprit.
Le soir où je l'ai vu, j'ai même eu l'impression qu'elle le jouait, Fanny Ardant, de manière forcée, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas envie de la jouer. Mais Jacques,
mais elle ne sait pas faire, c'est tout. Elle n'est pas du tout à l'aise dans un rôle comique. Si elle a voulu jouer la pièce, alors c'est dans le programme. C'est parce que le neveu de Jacqueline Maillan lui a révélé que la pièce a été écrite pour
Edwige Feuillère.
Edwige Feuillère, voilà. Et donc je pense qu'elle s'est dit que si c'était écrit pour Edwige Feuillère, elle pouvait le jouer. Bon, il se trouve qu'elle n'a ni les vertus d'Edwige Feuillère, ni les vertus de Jacqueline Maillan. Elle n'est absolument pas comique. On dirait qu'elle, on dirait une actrice de patronage.
Même la scène d'ouverture qui doit être drôle.
Ah non, mais c'est la
phrase ce spectacle. Encore veuve.
Non, mais ce spectacle est pour moi, j'en suis désolé, Gilles, mais je trouve grave ce que tu dis, surtout après les réserves que tu as faites sur les femmes savantes. Ce spectacle est une honte. Quand le boulevard n'est pas drôle, quand il n'y a pas un minimum de brio des acteurs, alors là, c'est une perte de temps épouvantable. Et il est complètement moisi, ce
croque-monsieur. Pas une perte que de temps, parce que j'ai regardé après le prix des places en bas, 71 euros.
Ah oui, non, mais je trouve ça horrifiant. Horrifiant que.
Non, je ne suis pas d'accord.
C'est l'absence totale de talent. Mitois n'a jamais eu une once de talent. Et Fanny Ardant est passable parfois au cinéma, mais alors au théâtre, ça, c'est pas possible.
Mais c'est horrible ce que vous dites là, Jacques. Horrible.
Fanny Ardant,
c'est une grande comédienne.
Moi, je vais pas mentir, j'ai passé une soirée agréable. Peut-être que la veille, j'étais en punition dans une cave, je ne sais où en banlieue, mais j'ai passé agréable. Mais je vais pas mentir.
Une cave en banlieue.
Mais c'est vrai qu'on ne rit pas autant qu'on devrait rire. Moi, je ne trouve pas le texte de Marcel Mitois si nul. C'est ces comédies des années 60 qui ne tenaient que grâce à Jacqueline Maillan, qui était un phénomène. Incroyable. Il écrivait pour elle. Moi, j'ai trouvé les comédiens bien, par exemple, Pierre Rochefort, il est très bien.
Non, très bien.
Oui, moi je l'ai trouvé très très bien. Et Bernard Ménès, je l'adore.
Ah oui.
Donc, de toute façon, j'étais en admiration. Les petites chansonnettes.
Rendez-nous Bernard Ménès.
Elles sont ravissantes et charmantes. Moi, franchement, mais la vérité est que Fanny Ardant, elle a dû, comme ça, sur un coup de tête, dire « Allez, je vais... » Mais elle ne voulait plus y aller.
Mais ça,
elle
qui est cavalière, ça on peut comprendre, hein.
Comme un cheval qui refuse l'obstacle. Et c'est pour ça que ça ne se joue que 2 mois.
Oui, c'est une certaine prudence.
Très prudente.
Fabienne
Bien, moi, je suis comme vous, Jérôme. Je n'ai pas ri du tout. Et pourtant, je suis très amateur de boulevard. Mais je pense que le choix de Fanny Ardant, c'est le contre-emploi total. Parce que pourquoi Jacqueline Maillan faisait rire? Parce que c'était une espèce de camionneur, de bulldozer très viril et qui se révélait être une femme à homme invraisemblable. Donc, cette différence, cette dichotomie entre sa séduction, ses maris et puis son côté, homme, vraiment
bulldozer,
c'était ça. C'était ce contraste, et ça, on ne l'a pas. Donc, moi, je n'ai pas ri du tout. J'ai admiré les tenues de Fanny Ardant, et puis j'ai pensé à Ozon tout le temps, en me disant que Thierry Cliffa n'était pas Ozon.
Pense
à Potiche, à 8 femmes.
8 femmes, avec les intermèdes musicaux.
Et s'il y avait eu un peu plus d'intermèdes musicaux d'Alex Baupin, je crois qu'il aurait pu gagner la sauce. Mais il n'a pas été assez loin.
Mais même ça, je trouve que ces intermèdes-là, ils ne sont pas vraiment non plus mis
en scène. Mais cette pièce est très mal écrite, quand même. On reste face à un texte d'une platitude.
Elle est mal écrite. écrite parce qu'elle est mal jouée.
Mais elle
n'est
pas, pas crédible. Une seconde, tout ce qu'on voit n'est pas crédible. Non, les personnages ne sont pas crédibles, les situations ne sont pas crédibles.
Mais c'est une pochade
votre
aussi.
Manque d'humour.
Moi, je suis atterré par.
Et votre injustice avec Fanny Ardant, qui est vraiment une très belle comédienne.
Mais c'est une belle comédienne, mais pas pour ça, Gilles.
Mais si ça où elle est très forte, c'est qu'elle elle joue le, à
l'inverse vivement de Maillon
et qu'elle gagne la partie.
Oui, ah, bah,
ah, oui mais c'était pas Coco Bezos.
Ça date un peu quand même. Croque-monsieur, donc si vous voulez aller manger un peu de ce...
Moisi.
Oh, n'exagérez pas.
Croque-monsieur, c'est donc... c'est sans Jacqueline Maillon, je vous le dis. C'est avec Fanny Ardant. Et c'est au théâtre de la...
Michaudière.
Pas tout jeune non plus, mais bon, c'est l'actualité. Barry et Grédy, qui sont devenus tendance depuis quelques temps. Alors, l'an passé, il y a eu le triomphe de Fleur de Cactus. Et ce même Théâtre Antoine, où a été joué Fleur de Cactus, remet au goût du jour un autre de leurs succès, qui est Peau de Vache, toujours mise en scène par Michel Faux, avec Chantal Latsou dans le rôle de Marion, alias Peau de Vache, dont la victime est Alexis, son mari, un violoncelliste fameux, mais très lâche. C'est Grégoire Bonnet, jusqu'au jour où une journaliste séduisante, c'est Pauline, qui est jouée par Anne Bouvier, fait éruption dans le couple, c'est Sophie Desmarais, qui avait créé Peau de Vache en 1975. Je le dis parce que j'ai regardé des archives, et j'ai pu constater qu'elle parlait beaucoup moins vite, et qu'elle mangeait beaucoup moins ses mots, que Chantal Latsou, dont j'ai eu du mal, je crois, à comprendre, je dirais, les deux tiers.
Oui, mais c'est sa marque de fabrique.
Oui, sauf que c'est gênant au théâtre.
Ah, oui. Son succès
je sais bien.
Repose sur ce fait-là.
Mais vous, Armelita, vous avez compris ?
Ah ben non, mais... non, mais je savais que je n'allais pas la comprendre. Alors c'est très étrange, parce que dans la vie, c'est une femme charmante qui s'exprime absolument normalement et que l'on entend parfaitement. Mais quand elle est sur un plateau, moi l'année dernière, j'ai vu Nelson, c'est ça, ça s'appelait Nelson, qu'elle jouait à la Porte Saint-Martin. Je ne comprenais rien et j'étais entourée de gens qui sautaient sur leur fauteuil tellement ils riaient. Et je me disais, mais alors, où est mon sonotone ? Vivement le sonotone ! Mais non, pas du tout. Et là, c'est vrai que c'est un peu dommage tout de même, parce que...
Alors, y a des moments la pièce est moins bonne que Fleur de Cactus, me semble-t-il.
Elle est très mauvaise.
Oui. C'est vrai qu'on ne retrouvera jamais l'aristocratie et l'abattage mêlés qu'avait Sophie Desmarais. Elle pourrait être parfaite, mais
c'est pas une comédienne.
Il y a quand même ce
c'est
problème.
C'est une fantaisiste, mais ce n'est pas une comédienne. Elle ne sait
si,
pas se tenir en scène, elle
ne
sait pas
comédienne.
Tenir une situation. Mais en plus, elle ne sait même pas se déplacer. C'est mouvement
est-ce
physique.
Est-ce que par hasard, je vous aurais donné la parole Allez-y, Armelita, allez jusqu'au
bout. Mais non, voilà. Et alors, il y a aussi cette dichotomie entre ce que veut faire Michel Faux. Michel Faux, il essaie de tirer ça vers un fil surréaliste, avec ses arrivées comme ça, comme si c'était une princesse dans une opérette, avec le décor de son frère qui fait très opérette. Et puis, en même temps, la pièce, elle est très prosaïque. Il y a quelques répliques rigolotes, il y a quelques personnages rigolos. Et puis, moi, j'ai eu du mal à imaginer. Alors, je m'en excuse parce que on ne juge pas un acteur sur son physique. Mais il y a quand même des emplois. Et Grégoire Bonnet... Il ne donne pas le sentiment qu'il est un grand virtuose du violoncelle.
Il y a un physique.
Qui part partout à travers le monde.
Oui, parce qu'il est célébrissime.
Il est un peu trop avachi, il est un peu trop. Bon, il est lâche dans la pièce.
Ils ne sont jamais avachis.
Non ? Ah bon ? À la création, c'était Daniel Secaldi.
Oui.
Daniel Secaldi.
Il était très avachi.
Quelle soirée, Bernard Ménez, Daniel Secaldi.
Oui. Eh bien, des vrais acteurs, de très bons
acteurs.
C'est
une vraie soirée théâtrale, hein.
Alors ce qu'il y a, il y a une reconstitution d'années 70.
Cela dit, est-ce que j'ai le droit
de
dire que
partout,
j'ai le sentiment que Michel Faux, que j'aime beaucoup, beaucoup, de pièce en pièce, il perd un peu de l'image assez, à la fois non seulement provocante, mais aussi originale qui était la sienne à ses débuts. Mais voilà, il faut peut-être qu'il se remonte un peu. Fabienne.
C'est provocant de monter ça quand même, quand on s'appelle Michel Faux, qu'on a travaillé avec Olivier Pie, Stanislas Nordet.
Il n'arrête pas de faire ça, Fleur
de Cactus.
Oui, mais il le fait bien. Parce que alors moi, autant j'ai détesté Croque-Monsieur, autant j'ai adoré Peau de Vache. Et Chantal Latsou, pour moi, c'est une comédienne, mais prodigieuse.
Prodigieuse.
Vraiment.
Mais tu es d'accord qu'on la comprend pas toujours.
Mais ça fait partie du plaisir. On imagine, on rêve à ce qu'elle peut dire. Je vais. Jouvet, on ne le comprenait pas toujours non plus.
Elle a
Il était bègue, c'est différent.
Comment ça, mais on le comprenait, Jouvet.
Mais elle a exactement la diction de Jouvet. Quand
oh
elle
non,
est,
mais vous, elle non, est... c'est n'importe quoi.
Elle arrive sur scène. C'est
Chantal Latsou et notre nouveau Jouvet.
Exactement.
Voilà.
Non, Fabienne, elle arrive sur scène.
Et Bernard Ménez, notre nouveau Villard.
Dans son pantalon moulant des années 60, avec toujours cette distance que sait entretenir Michel Faux avec la réalité, avec l'époque, cet humour, cette ironie. Et en plus, la pièce de Barry et Grédy, elle est beaucoup plus fine que celle de Mitois, parce que qu'est-ce que ça raconte ?
Mais elle n'est pas bonne. Ils n'ont jamais eu...
Mais si, ça raconte plein de choses. Pour moi, ça raconte qu'on se sert souvent des peaux de vache pour faire passer sa propre lâcheté, ses peurs, ses angoisses, ses hantises. Je ne sais pas si on fait la liaison. Et donc, elle sert de paratonnerre et elle s'en rend compte à la fin. Donc, ce n'est pas aussi bête que ça.
Mais non, ce n'est pas bête.
Mais non, ce n'est pas stupide.
Il y a une dame qui est méchante pendant deux actes. Le troisième acte, elle fait semblant d'être gentille et à la fin, elle nous révèle que non, elle était restée méchante. Voilà toute la
Non, mais on pourrait caricaturer
la seule chose que raconte cette pièce où il n'y a pas de vraie situation et où il n'y a que des bavardages et des conversations pas brillantes, pas une seconde. Il n'y a pas un mot d'esprit, mais c'est d'une platitude, d'une médiocrité incroyable.
Ce qui compte, c'est que ça permet à des acteurs de faire des folies.
Chercher le théâtre
d'il
y a 50 ans, je veux bien, mais il faut trouver les bonnes pièces d'il y a 50 ans. Il y en avait. Michel Faux, au départ, était quand il s'intéresse aux pièces de jeunesse de Guitry ou trucs comme ça, c'était amusant, c'était intéressant. Mais là, nous ressortir une mauvaise pièce de Barry et Grédy, non, c'est vraiment pas la peine.
Mais moi, je vais
et puis
au
en plus,
théâtre.
La faire jouer par cette fantaisiste qui ne sait pas de son métier, qui, et encore une fois, on dirait une marionnette à fil dont le manipulateur est un peu ivre.
Mais non, mais
elle fait des mouvements dans tous les sens.
C'est sa personnalité. Moi, je veux dire,
mais c'est pas sa vérité. Il y a un minimum de situation. Il faut être crédible. Il faut savoir ce qu'on raconte. Elle ne tient pas une situation. Elle veut nous montrer que cette femme est méchante. Elle sait même pas jouer la méchanceté. Elle ne sait que grincer. Et c'est tout. Elle ne sait pas faire autre chose.
Vous faites très bien Chantal là-dessous.
Peu importe si elle nous étonne.
Non.
Mais
elle
si,
nous étonne
étonnez-moi,
pas.
Disait
non,
l'autre.
Non, parce qu'elle fait la même chose du début à la fin. Alors franchement, je ne sais pas comment vous faites
avec
pour être
grâce.
Étonné toute la soirée. Non
Gilles.
Oui, il ne faut pas jeter toutes les pièces de Barry et Grédy. Ils ont fait de très très bonnes pièces. Mais c'est vrai que Peau de Vache, on se demande pourquoi elle est allée chercher cette pièce qui est vraiment pas bonne.
Je crois que c'est Michel Faux qui l'a choisie. Hein.
Ouais, c'est une pièce pour les simples d'esprit. C'est tellement heureux les simples d'esprit. Disait l'évangile. Et voilà, je crois qu'ici, ici, à notre table, on a le simple d'esprit qui a su aimer ça. Mais c'est vraiment très très pauvre. Il n'y a rien à sauver, quoi.
C'est Peau de Vache. Et c'est au théâtre Antoine, et c'est Barillet et Grédy, les auteurs. Dans la série, les films deviennent des pièces après avoir été des livres. Voici d'après Georges Simenon, Le Chat, et que Pierre Granier de Fer a porté à l'écran en 71. On est un peu nostalgique ce soir, hein, mais j'y peux rien, c'est l'actualité.
C'est fou, hein, ouais.
C'est bizarre hein, ce qui se passe sur les scènes.
Ouais.
Et le film était sur le scénario de Pascal Jardin, avec évidemment aussi inoubliable. Qu'effrayant, Simone Signoret et Jean Gabin. Ce couple de retraités se livre une guerre quotidienne dans un pavillon lui-même attaqué par des travaux d'urbanisme. Un couple sans enfants, lui ancien ouvrier, elle bourgeoise. Dans le film, c'était une ancienne trapéziste qui avait fait une chute. Là, c'est vraiment le Simenon pur jus. Donc elle est bourgeoise, ils font chambre à part et ils vont se déchirer pour un chat de gouttière qu'Émile a recueilli et dont Marguerite veut la peau. Didier Long, qui donc met en scène la pièce, inspire directement du roman dans cette pièce, enfin dans ce champ de ruines, qu'il met en scène avec le système des flashbacks et autant de silence. C'est au théâtre de l'Atelier avec Myriam Boyer et Jean Benguigui dans ces rôles qui... Je n'ai rien contre Myriam Boyer, au contraire, et Jean Benguigui, mais qui sont tellement marqués par Signoret et Gabin qu'on a un peu de mal à imaginer des successeurs Gilles.
Je dois dire que je n'ai pas lu le roman de Simenon, que j'ai vu le film, et là, je ne rentre absolument pas dans ce spectacle. Je ne comprends pas l'intérêt de ce spectacle, dans la mesure où l'histoire que je connais par le cinéma est ici en tranche napolitaine, on fait des allers-retours dans le passé. Oui. On commence déjà par la mort du chat, qui est d'ailleurs joué par un vrai chat taxidermisé.
Il est plus vivant.
Et j'avoue que je suis incapable, en tant que spectateur, de passer de la veille au lendemain, etc., dans la façon dont c'est acrobatiquement écrit, enfin adapté par par deux personnes qui sont, vous ne l'avez pas cité, je crois, Christian Lyon et Blandine.
C'est vrai, je n'ai cité que le scénariste du film.
Alors, j'ai une admiration énorme pour ces deux comédiens, Jean-Benguigui et Myriam Boyer.
On les aime beaucoup.
Je suis resté à l'extérieur, complètement.
Fabienne ?
Oh, moi, je suis plus terrible que vous pour les acteurs. Jean-Benguigui, il a 4-5 notes à son actif et là, il a du mal à...
C'est plus que Chantal Latsou qui n'en a qu'une.
Ah non, mais Chantal Latsou, elle a de la présence.
Mais c'est moins que Bernard Ménez.
Donc, on pense sans arrêt, on se demande si on n'a pas choisi Myriam Boyer parce qu'elle ressemble à Simone Signoret. Moi, je trouve qu'elle a surtout la chance d'avoir un très mauvais partenaire. Parce que c'est vrai que dans le côté... Simenon, il joue avec les silences. Le silence, c'est un personnage de la pièce. D'ailleurs, ce couple se déteste, ne se parle plus, mange chacun de son côté, ont divisé l'appartement en deux. Et là, le silence qui devrait être habité, il n'est pas du tout habité par les acteurs. Donc, alors, on voit des vidéos qui passent, on voit des changements de décor. Heureusement qu'il y a des flashbacks parce que ça relance un peu l'intérêt. Ouais, enfin. Mais moi, c'est plutôt la mise en scène, là. La mise en scène, elle irait, les décors iraient, mais c'est l'interprétation. Elle n'a pas de chance, Myriam Boyer. Vraiment, la bêtise, c'est d'avoir distribué Jean-Benguigui, qui pourrait être bon dans d'autres rôles, mais qui, là, ne fait absolument pas la blague.
Non, c'est surtout la structure qui pose un vrai problème.
Jacques, moi, je crois que le film magnifiait le roman, notamment...
Grâce à Jardin, encore.
Grâce à Jardin, effectivement, grâce, évidemment, aux deux interprètes exceptionnels qu'étaient Signoret et Gabin. Et là, on retombe dans le roman de Simenon, et le roman de Simenon, c'est le portrait de deux médiocres, et au fond, c'est très difficile de passer toute une soirée avec des médiocres, des gens pour lesquels on n'a aucune sympathie, à aucun moment.
Non, mais c'est vrai,
ni
c'est
l'un,
que disent,
ni l'autre.
Jacques.
Et donc, au bout d'un moment, on rejette ce spectacle. Oui, les comédiens
c'est
sont
des
pas, ils sont pas extraordinaires.
Blessures et de fêlures.
Oui, mais c'est pas des médiocres de Tchekhov, c'est des médiocres de Simenon. C'est
Jacques,
beaucoup plus
Jacques
petit.
A très peu de générosité. Ça vous l'apprendrez, Fabienne, Armel.
Non, mais je suis assez d'accord avec Jacques. On n'a pas d'empathie pour ces deux personnages. Et du coup, c'est pour ça, Gilles dit qu'il est resté à la porte. Il y a ça. On n'est pas ému. C'est une entreprise étrange. Je crois que c'est Myriam Boyer
parce que les
qui
acteurs
rêvait
sont mauvais,
de jouer ce rôle. Je crois que c'est elle qui a monté tout ça, et elles l'ont joué à Lyon au printemps dernier.
Qui avait fait un bon Gary, enfin un bon Ajar.
Merveilleuse, et puis elle était aux poches l'année dernière avec Cher Elena, elle était absolument
Non, mais c'est une très bonne
sublime,
actrice, c'est pas la question.
Et elle a tout quitté pour aller jouer cette mauvaise pièce, quoi, parce que c'est pas bien écrit du tout.
Exact.
Eh bien, c'est au Théâtre de l'Atelier, c'est Le Chat que vous allez courir voir, et c'est avec Myriam Boyer et Jean-Benguigui. Allez, on termine avec Vania, d'après Oncle Vania de Tchekhov, qui raconte la fin du séjour d'été mouvementé d'un professeur et de sa jeune épouse chez l'oncle Vania, dans une propriété qui va être vendue. C'est mis en scène par Julie Deliquet, c'est au Vieux Colombier, c'est jusqu'au 6 novembre. Avec Dominique Blanc, Florence Viala, Laurence Tocquer, Hervé Pierre, Stéphane Varupen, Noam Morgenstern et Anna Servinka, Tchekhov, qui a 36 ans lorsqu'il écrit cette pièce. C'est l'âge exact de Julie Deliquet et qui a, je le rappelle, créé le collectif In Vitro et qui, pour la première fois, propose ce qu'elle appelle sa méthode aux comédiens du français. Pas de décor, sinon une grande table, un dispositif bifrontal, une dynamique de groupe et des acteurs, dit-elle, considérés comme des créateurs à part entière. Dites-moi si vous avez été convaincue ou pas, Fabienne.
Eh bien, moi, après un petit peu d'agacement devant certaines coquetteries de Julie Deliquet, certains anachronismes, par exemple des allusions au cinéma, à Mort sur le Nil de John Guillermin ou encore à des longs extraits d'un film de Dreyer, je me suis dit, zut, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Eh bien, finalement, j'ai été totalement conquise par le spectacle en y réfléchissant après. Parce que la pièce, alors, elle l'appelle Vania, ça s'appelle Oncle Vania, c'est parce qu'elle veut montrer qu'elle l'adapte, bien entendu. Donc, il y a des morceaux intégraux de la pièce qu'on retrouve, qu'on réentend, et puis elle a rajouté des choses. C'est le fruit d'un travail d'improvisation, mais qui rend les acteurs très proches les uns des autres, parce qu'on sent qu'ils ont inventé, qu'ils ont imaginé, qu'ils ont rêvé à partir du
texte. Et les spectateurs des acteurs aussi.
Et les spectateurs des acteurs. Et Julie Deliquet, elle dirige ce collectif que vous évoquiez, In Vitro, mais la force du travail collectif, c'est qu'elle met aussi des effets de réel en permanence dans sa direction des acteurs, la manière, ils mangent, ils sont proches. Et cette proximité, elle redonne du nerf et du sang au texte. Et finalement, ce texte qu'on joue toujours dans la mélancolie, la neurasthénie, d'être frustré, qui ont raté leur vie, qui sont aux portes d'une société qui bascule et qu'ils ne comprennent pas toujours, sauf le médecin qui est déjà écologiste avant l'âge, eh bien, je trouve qu'elle redonne la dimension. Tous les comédiens ont l'âge de leur rôle, et ça, c'est rare, hein. Ils ont son âge à elle. Vania, il a 40 ans, comme dans la pièce. C'est pas Jean-Pierre Marielle à 60 ans, comme il l'interprétait. Et du fait de cette fraîcheur des acteurs, de cette fraîcheur de la mise en scène, qui se fait avec des objets ordinaires du quotidien, moi, j'ai trouvé que Vania était revitalisée, contrairement à ce que je pensais au début.
Armelle ?
Je suis tout à fait d'accord avec Fabienne, parce que moi aussi, j'ai été agacée par l'allusion au Marcharif. Bon. Mais alors, je me suis renseignée depuis, parce que je ne comprenais pas qu'est-ce qui était, parce qu'il reste des morceaux d'improvisation. Et ça, par exemple, cette allusion tout d'un coup que sort Vania, c'est de l'improvisation. Le film Les Vampires de Dreyer, il passera chaque soir, mais Hervé Pierre, qui joue l'intellectuel, le nouveau mari d'Héléna, enfin le mari d'Héléna, il fait le commentateur savant du film, il le fera tous les soirs. Et Vania, il fera tous les soirs des remarques sous-sautes, exprès, pour l'agacer. Bon, ça, c'est fixé, mais ça sera jamais les mêmes. Et ça, je trouve que c'est quand même un travail extrêmement intéressant, parce que ça suppose à la fois un jeu très précis des comédiens, parce qu'il y a vraiment des blocs qui appartiennent complètement à Vania dans la traduction qu'avait fait Bruno Sermon et sa femme. Et vraiment, on a complètement notre oncle Vania, il n'y a pas de doute. Et puis, il y a ces moments qui nous déstabilisent, il y a la cafetière électrique pour faire le café, il y a... Bon. Mais ça n'est pas, on ne perd pas l'essence même de Vania. Et comme le dit Fabienne, elle s'appuie sur une distribution qu'elle a choisie elle-même, d'acteurs qui en plus s'entendent. Parce que je pense que pour faire ce travail de proximité, d'affrontement, parce que le soir où je l'ai vu, j'ai vraiment eu le sentiment à un moment que Vania Laurence Stocker allait vraiment étrangler son ex-beau-frère Hervé Pierre. Quoi. C'est saisissant. Alors, moi, j'aurais un tout petit bémol, c'est que je trouve, le soir où je l'ai vu en tout cas, il pleurait quand même beaucoup. Il y a beaucoup de larmes, beaucoup de pathos. Mais je pense que c'est parce qu'ils sont dans ce mouvement insensé de jeux réglés et de jeux déréglés.
Jacques, je suis à peu près d'accord avec vous. Petit agacement au début devant ces anachronismes un peu lourdeaux, mais finalement on les oublie très vite. Ils ne sont pas très importants. Et l'essentiel de Tchekhov est là. J'ai une très grande admiration pour les acteurs qui sont sur le plateau.
Laurent
Stocker, Hervé Pierre évidemment. Stéphane Varupen, qui là trouve peut-être pour la première fois de quoi éclater. Ouais. Il est extraordinaire dans le rôle du médecin. Il est séduisant, il est touchant. C'est formidable. Moi, mon bémol, en fait, j'en ai deux. Le premier, le plus grave, c'est Florence Viala, que je ne trouve pas vraiment faite pour ce rôle. Voilà, c'est un rôle... J'ai un souvenir enchanté de Jeanne Balibar dans une enseigne il y a longtemps.
Et
elle ne m'enchante pas, elle ne m'entraîne pas vraiment dans le sillage qui devrait être le sien. Enfin bon. Et la deuxième chose, c'est quand même assez grave, c'est qu'il y a pratiquement tout un acte où on ne voit pas le visage des acteurs. Je sais que je le dis souvent, c'est un peu une marotte, mais là, quand même, j'en ai marre qu'on nous laisse dans la pénombre. Je n'ai pas envie qu'on éclaire le décor, j'ai envie qu'on éclaire le visage des acteurs. Je ne veux pas qu'ils soient tout le temps plein feu, ce n'est pas ce que je demande, mais on ne peut pas passer tout un acte. Pardon, non, il y a tout un moment où on ne les voit pas.
Ah oui, mais peut-être. Alors, Jacques, vous étiez du côté, on était le même soir, bon, vous étiez du côté scène.
Pas entrer dans le détail de l'emplacement de Nerson, on va juste.
Mais c'est un beau spectacle. Hein.
Gilles ?
Oui, moi je trouve ça admirable. Hein. Vraiment bouleversant, splendide. Et alors, ça ne me gêne pas, moi, les anachronismes, parce que c'est des anachronismes discrets, quoi. Ils sont. Ça se passe sans doute aujourd'hui, mais c'est jamais appuyé. On est aussi dans le 19e, fin du 19e siècle de Tchekhov.
Oui, on l'est. On l'est aussi.
Et donc, c'est pas gênant. Et tout est d'une grande finesse. Alors, ce qui est très amusant, c'est la façon dont Hervé Pierre joue le vieil écrivain insupportable. Parce que dans la pièce de Tchekhov, le vieil écrivain, c'est un type autoritaire, fermé.
C'est un universitaire, c'est pas un écrivain.
Les deux, il est historien et il est oui un vieux prof bougon.
Voilà.
Tandis que là, semble-t-il, Julie Deniquet s'est souvenu de son père qui était un 68-art heureux et qui lui imposait le cinéma, le ciné-club tout le temps. Et donc elle s'est vengée de ça en faisant de ce personnage un personnage qui oblige de regarder Dreyer à la maison.
Ah oui, c'est ça.
Et c'est très finalement quand on le sait ou quand on le suppose, quand on le devine, c'est très amusant. Et ce que fait Hervé Pierre est aussi très remarquable, comme l'est en effet Stéphane Verhulst. La plupart des autres acteurs.
Moi, je sais pas trop. Anna Servinka,
oui, magnifique aussi.
Oui, dont personne ne parle d'ailleurs ici. Dans la table.
C'est un tout petit rôle quand même. Bon.
Oui, mais c'est pas facile de jouer un petit rôle.
Donc, vous avez jusqu'au 6 novembre pour aller voir au Vieux Colombier Vania, dans la version de Julie Deliquet, Vania de Tchekhov. Et on en vient au moment des conseils. On va commencer avec Fabienne. Qu'est-ce qu'elle nous propose ce soir?
Moi, je propose quelque chose qui n'a peut-être pas plu à mes camarades, mais qui a pour moi été une aventure assez exceptionnelle. C'est le spectacle de Claude Rézy, Rêve et folie, qui se joue à Nanterre, d'après Georges Trakl. Alors, c'est pire que Chantal Latsou. Hein. Yann Baudot, on comprend quasiment pas ce qu'il dit. Il est dans le noir. On se rend compte que c'est un monstre.
Si on l'entend, Fabienne, quand même.
Ah, on l'entend, mais est-ce
là,
que
déjà,
tu
j'ai très envie d'y aller quand même, parce que
mais
Claude Rézy, Trakl.
Non, moi, je comprenais. Et un même ce qui m'a frappé, c'est que le lendemain, j'avais l'impression d'avoir tout le texte dans la tête.
Ah oui, bah tu vois, voilà, c'est ça, c'est mystérieux, c'est une expérience, on plonge dans l'indicible, dans l'insaisissable, ce qu'on voit, on ne sait pas vraiment ce qu'on voit, mais on y va, et donc moi, encore une fois, cette expérience, je vais au théâtre pour avoir
Fabien,
des expériences, des sensations.
Une heure, même pas
50 minutes, que du bonheur.
Ah oui, c'est un régie très court,
enfin, que
ça.
De la terreur.
C'est plus long en RER pour aller à Nanterre.
Bon... Et c'est le titre, c'est...
Et le titre, c'est Rêve et folie, d'après 4-5 pages de Georges Trakl.
Et il dit que c'est son dernier spectacle.
Oui, oh, ça, je ne peux pas le croire.
Le conseil d'Armelita.
Alors, j'en ai deux. J'en aurais même trois si je m'écoutais,
non.
Mais bon.
Non.
Alors,
j'en prends deux,
à
déjà.
L'épée de bois, une pièce d'un Allemand, un peu comme l'auteur de Rézy, un Allemand mort très jeune, à même pas 35 ans, duc de Gotland. C'est une histoire de cap et d'épée qui se passe sur la mer Baltique, en Suède. Les Finnois débarquent et ils sont commandés par un Africain qui est joué par Denis Lavant. C'est une pièce d'une force incroyable. C'est Bernard Sobel qui met ça en scène. Et franchement, je vous assure, ça joue jusqu'à la mi-octobre. Il fait vraiment y aller. Et puis d'autre part, dans un tout autre genre, il y a une petite comédie faite par nos amis qui avaient joué Evita. Ça s'appelle Renata, c'est de l'humour argentin d'aujourd'hui. Mais je voudrais signaler ça, et je pense que vous allez être d'accord.
Ah, la reprise, enfin, la reprise.
Les épiphanies de Pichette, d'Henri Pichette.
Qui n'a pas été montée depuis
voilà.
Gérard
dont j'avais
Philippe.
Vu la préfiguration à Avignon, il y a deux étés, dans la salle de la maison Jean Villard, et c'est repris au théâtre de Suresnes les 11, 12 octobre, les 3, 4, 5 novembre. Et vraiment, c'est une jeune équipe remarquable.
Mon conseil, c'est la reprise au Théâtre Édouard VII à 19h de couple, une pièce de l'excellent Gilles Gaston-Dreyfus qu'il avait créé et joué avec Anne Benoît, c'était au Rond-Point la saison dernière. Version absolument cruelle et en même temps très drôle de la vie à deux. C'est entre les scènes de la vie conjugale et qui a peur de Virginia Woolf. C'est méchant, c'est drôle, c'est du brutal, quoi. Et c'est donc à 19h au Théâtre Édouard VII. Le conseil de Gilles.
Alors ça se passe au Poche Montparnasse, c'est la version Browning de Terence Rattigan, c'est une mise en scène de Patrice Carbras, l'histoire d'un prof contre lequel tout se déclenche, quoi. Tout va mal, et c'est joué par Jean-Pierre Bovier qui a un grand talent, entouré de Philippe Etès, de Marie Bunel, c'est très émouvant, très fort.
Le conseil de Jacques pour finir.
Eh ben, une pièce d'Édouard Bourdin, un auteur que Michel Faux aurait bien
mais
fait.
Ça va encore nous rajeunir.
Ben oui, mais ah il y avait aussi des bons auteurs dans le temps. C'est un très grand auteur.
Formidable.
C'est la saison des prix. Vient de paraître justement, ça raconte toutes les magouilles des prix littéraires. On voit que ça n'a pas changé, que c'est toujours la même chose. Et c'est irrésistible.
Très bien
tous,
écrit.
Très bien écrit, très bien conseils, montré par Jean-Paul Tribou au Théâtre 14.
Au Théâtre 14. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Fabienne Pascot, Armel Elio, Gilles Costaz et Jacques Nerson pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, à la technique, Cédric Chatelus, Julie Garraud, Ludovic Auger et Maïwenn Lejehan. La réalisation était bien sûr de Didier Lagarde. Et vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, il aura lieu le jeudi 6 octobre. Je vous attends nombreux au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions. L'une qui sera consacrée au cinéma, l'autre au livre. On parle de films dans une semaine. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.